Lorsqu'on parle de foi chrétienne, on l'entend bien souvent dans le sens très général de croyance en Dieu et en Christ. Mais la foi doit avoir un contenu, une espérance précise, une raison d'être. C'est pourquoi je voudrais que nous nous attardions aujourd'hui à l'une des expressions les plus fondamentales de la foi chrétienne, la croyance en la résurrection des morts et en particulier en la résurrection du Christ. La question jadis posée par le patriarche Job dans l'Ancien Testament jouira toujours d'une grande actualité. Elle est essentielle à l'homme. Job demandait « L'homme, une fois mort, peut-il revivre ?» La réponse que nous donnerons à cette question est d'une importance primordiale, car c'est d'elle que dépend le sens que nous allons donner à notre existence. En effet, notre conception de la vie dépend forcément de ce que nous croyons au sujet de la possibilité d'une vie après la mort. Et ce que nous croyons sur ce sujet dépend essentiellement de ce que nous croyons concernant la résurrection du Christ. À cet égard, les questions qui se posent sont les suivantes. Le Christ est-il vraiment ressuscité des morts? Pouvons-nous, au XXe siècle, croire en une résurrection littérale, physique, corporelle? La croyance en la résurrection fait-elle nécessairement partie de la foi chrétienne, dans ce sens qu'il ne pourrait y avoir de foi chrétienne sans croyance en la résurrection? Toute la difficulté, apparemment, réside dans le fait qu'il est pénible à nos esprits, souvent intoxiqués d'intellectualisme, de concevoir qu'un cadavre puisse revenir à la vie. Aussi extraordinaire et peu probable que cela puisse paraître au premier abord, nous sommes bien obligés de faire face à une horde de témoins qui déclarent avec la même véhémence qu'ils ont vu de leurs yeux, touché de leurs mains et entendu de leurs oreilles le Christ ressuscité. Il faut dire que leur témoignage est déconcertant, car ils portent toutes les marques de la plus haute crédibilité. C'est pour cela que nous avons la responsabilité de le considérer objectivement. Selon eux, il était mort, mais il est ressuscité dans la matinée du troisième jour. Réfléchissons objectivement. Si nous acceptons de croire en un Dieu tout-puissant, et sa toute-puissance est suffisamment attestée dans l'univers, est-il si difficile, dès lors, de croire que Dieu puisse ressusciter les morts? Chers amis, il faut savoir que la résurrection du Christ est un fait historique qui est attesté par des évidences les plus irrécusables. Ces évidences s'appuient sur le témoignage des hommes qui ont connu intimement le Christ et qui l'ont vu à plusieurs reprises après sa résurrection, qui ont même été témoins de son ascension. Je veux parler des apôtres. Non seulement le témoignage de ces hommes est-il rigoureusement concordant, mais ils ont aussi donné la plus grande preuve de leur sincérité absolue. Si leur témoignage était faux, il n'est guère concevable qu'ils auraient accepté les persécutions, les outrages, les privations et les emprisonnements qu'ils ont dû subir pour l'avoir rendu. Assurément, il y en aurait eu au moins quelques-uns qui se seraient rétractés. Au contraire, à une exception près, ils ont scellé avec leur sang leur témoignage à la résurrection du Christ. De plus, ils ont fondé sur lui la religion la plus sûre, la plus noble que le monde ait jamais connue. Est-il concevable que le christianisme puisse avoir pour origine une imposture aussi grotesque? Évidemment, les rationalistes incrédules ont toujours cherché le moyen d'affaiblir ce témoignage apostolique, ou du moins à l'expliquer à leur façon. Ils nient d'abord la résurrection littérale de Jésus, prétextant qu'il s'agit là d'une résurrection purement allégorique ou symbolique. Selon ces modernistes, ce ne serait pas le corps de Jésus qui ressuscita d'entre les morts. La résurrection ne serait que la survivance des enseignements et de la religion de Jésus, qu'il a implanté dans l'esprit de ses disciples et qui constituait pour eux une sorte de retour à la vie. Le Maître n'est-il pas présent et vivant dans ses enseignements? Cependant, en nous basant sur le texte de la Bible, aucun doute ne nous est permis. Il s'agit de la résurrection littérale, corporelle de notre Seigneur. Les apôtres affirment textuellement l'avoir vu, avoir parlé avec lui, avoir mangé avec lui, l'avoir touché. Ces affirmations seraient naturellement fausses si Jésus n'était pas réellement ressuscité. Le jour même de sa résurrection, lorsque Jésus leur apparut dans la chambre fermée où ses disciples s'étaient réunis, ceux-ci furent saisis de frayeur et d'épouvante, croyant voir un esprit. Mais selon le compte rendu de Luc, Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Ainsi, la résurrection du Christ fut une véritable résurrection de la chair, et non pas simplement une allégorie, un symbole ou une illusion. Lorsque cette rencontre fut racontée à Thomas, un autre disciple qui n'était pas présent à cette occasion, celui-ci déclara qu'il ne croirait pas à moins de voir l'empreinte des clous dans ses mains et de mettre son doigt dans son côté. 8 jours après, Jésus apparut de nouveau aux apôtres, Thomas étant présent, et il lui dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Comme preuve supplémentaire qu'il était bel et bien ressuscité, Jésus leur demanda quelque chose à manger. Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Après tant de preuves incontestables, ce fut donc, dans l'esprit de ses apôtres, une certitude que Jésus était réellement ressuscité dans son corps. C'était bien lui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, en proclamant à Jérusalem, là même où Jésus fut condamné et mis à mort, que ce même Jésus était ressuscité, et à cette occasion, il cite une prophétie dans les psaumes de David, qui dit « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Et puis il ajoute que David, prévoyant la résurrection du Christ, avait écrit ces paroles. Ainsi, selon Pierre, la résurrection du Christ fut une résurrection littérale, corporelle, qui ne permit pas à sa chair de voir la corruption. Ce témoignage est tellement clair et formel que d'autres interprètes modernistes s'obstinant à ne pas croire à la résurrection du Christ prétendent que Jésus n'était pas mort lorsqu'il fut placé dans le sépulcre, mais qu'il était plutôt dans un état d'évanouissement. Mais ici encore, nous avons affaire avec des affirmations trop précises et abondantes que pour permettre une telle thèse. Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc, en racontant la crucifixion de Jésus, assurent leurs lecteurs qu'il rendit l'esprit ou qu'il expira. Jean, pour enlever tous les doutes possibles à ce sujet, nous donne une description plus détaillée des circonstances entourant la mort de Jésus. Il dit « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, et puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Or, un tel phénomène ne se produit qu'après la mort, l'eau étant sans nul doute le plasma sanguin qui se forme après la mort. Jean, parlant sans doute de lui-même, continue « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » Outre les longues heures de souffrance atroce sur la croix et de la plaie ouverte dans son côté, Jésus fut préparé pour la sépulture. Joseph d'Arimathée et Nicodème apportèrent un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et puis ils déposèrent ce corps brisé, inerte, dans le sépulcre. Or, si même, malgré le témoignage répété des évangélistes, Jésus n'était pas mort lorsqu'il fut enlevé de la croix, il aurait certainement succombé peu de temps après, soit à une hémorragie, soit par asphyxie, soit par les deux. En outre, s'il n'était que dans un état d'évanouissement lorsqu'il fut déposé dans le sépulcre, il n'aurait jamais pu, dans son état affaibli, se dégager du linceul dont il était enveloppé pour ensuite rouler tout seul la grosse pierre qui fermait le tombeau et faire face aux soldats qui le gardaient pour assurer que ses disciples ne dérobassent son corps. En plus de tout cela, Paul déclare 11 fois dans ses épîtres que Jésus mourut, et il écrit 4 fois qu'il était mort. C'est ainsi que tous les témoins du Nouveau Testament affirment formellement la mort de Jésus, ainsi que sa résurrection d'entre les morts. Il est indéniable que la résurrection du Christ est un des faits fondamentaux de l'Évangile. Elle constituait la base de la prédication apostolique. Si nous ne pouvions pas accepter ce point cardinal, il nous faudrait douter de tout le reste. Car si Jésus n'était pas ressuscité, sa mort elle-même serait sans signification pour nous, et toute sa mission sur terre n'aurait été qu'un lamentable échec. Dans ce cas, il ne serait pas le Messie, il ne serait pas le Fils de Dieu, il ne serait pas le Sauveur du monde. Comme dit l'apôtre Paul à l'église des Corinthiens, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La croyance en la résurrection du Christ fait donc nécessairement et profondément partie de la foi chrétienne, de nos jours comme au premier jour. Jésus, en effet, est venu au monde non seulement pour donner aux hommes l'éthique la plus sublime et le plus bel exemple que le monde ait jamais connu, mais il est venu surtout pour expier les péchés des hommes par sa mort et pour leur donner l'espérance de la vie éternelle par sa résurrection. Dans le langage de Paul, il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ôtez de l'Évangile cette grande vérité, et qu'en reste-t-il ? On enlève du même coup sa beauté, sa puissance, sa grandeur, ses promesses, en un mot, sa raison d'être. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous pouvons dire avec l'assurance de l'apôtre Paul, maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ.